Voici donc les deux lectures pour ce 15e dimanche après la Pentecôte. Épître tirée de saint Paul aux Galates. Mes frères, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne devenons pas avides de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. Mes frères, même si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le dans un esprit de douceur, prenant garde à vous-même, de peur que vous aussi vous ne soyez tentés. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un s'imagine être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et que chacun examine ses propres actions, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non devant les autres. Car à chacun de porter son propre fardeau. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, et ne vous y trompez point, on ne se moque pas de Dieu. Car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans sa chair, de la chair moissonnera la corruption. Celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous moissonnerons, si nous ne nous lassons pas. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort en terre. Et c'était un fils unique, et sa mère était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle, et lui dit, ne pleurez pas. Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je vous l'ordonne, levez-vous. » Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tout le monde fut saisi de crainte, et il glorifiait Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Veuillez vous asseoir. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc pas de messe lundi et samedi. Sinon, les autres jours, du mardi au vendredi, messe à 10h. Alors, j'ai encore une place pour la retraite la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, du 13 septembre au 18 septembre, également une place pour la retraite du 18 octobre au 23 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons voir avec le Père de l'Église comment expliquer l'Évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Vous savez que dans les Évangiles, il y a trois cas de résurrection. Sans doute que notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité d'autres personnes, on ne sait pas. Rappelez-vous ce que dit saint Jean à la fin de son évangile. S'il fallait expliquer tout ce qu'a fait et dit notre Seigneur Jésus-Christ, le monde ne pourrait contenir les livres pour expliquer tout ce qu'il a fait. Mais on sait par les évangiles, notre Seigneur a ressuscité trois personnes. Il a ressuscité la petite fille du chef de la synagogue, qui était encore sur son lit de mortuaire. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm aujourd'hui, qui était déjà porté en terre par les porteurs. Et il a ressuscité Lazare, Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine, qui était déjà au tombeau et qui était déjà entré en corruption depuis déjà 4 jours. Vous savez que les pères, je vous l'ai déjà souvent dit, les pères expliquent toujours la même façon en disant que cette mort physique représente une mort spirituelle. Et donc, il faut remarquer qu'à chaque fois, il y a un degré qui augmente. Premier cas, c'est la jeune fille qui vient de mourir, qui est encore sur son lit mortuaire. Deuxième cas, le mort est déjà porté en terre. Troisième cas, le mort est déjà dans le tombeau. Et les pères expliquent en disant que, à chaque fois, cela montre que le premier cas représente le péché véniel, notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur le péché véniel. Le deuxième cas montre le péché mortel accidentel, notre Seigneur a pouvoir de pardonner ses péchés. Et le troisième cas montre le vice. On est déjà ancré dans le péché et notre Seigneur a aussi le pouvoir sur ce vice. Alors essayons d'analyser surtout le deuxième cas, puisque c'est l'évangile d'aujourd'hui. Vous verrez comment les pères de l'Église expliquent. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans la ville et voilà un cortège qui s'avance. On porte en terre le fils d'une veuve éplorée. Remarquez que la veuve, la mère de cet enfant qui vient de mourir, ne va pas se précipiter vers notre Seigneur en lui disant: Seigneur, guérissez mon fils, sauvez mon fils, ramenez-le à la vie. Il aurait pu faire ça, elle ne le fait pas. Pourtant, elle connaissait notre Seigneur. Elle a entendu parler de tous ces miracles, tout le monde parlait que de cela dans toute la, dans toute la, tout le pays de Palestine. L'Évangile met, notre Seigneur Jésus-Christ fut touché de compassion. Il s'approche, il arrête le cortège, il met la main sur le cercueil, donne l'ordre: jeune homme, je vous l'ordonne, levez-vous. L'homme parle et notre Seigneur Jésus-Christ le rend à sa mère. Si on essaie d'avoir une interprétation personnelle, on voit rien d'extraordinaire là-dedans. En fait, il y a un tas de mystères qu'il faut bien expliquer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fait le premier pas. Ce n'est pas la maman qui vient demander à notre Seigneur le miracle, c'est notre Seigneur qui est touché de compassion. Et puisque la mort représente la mort spirituelle, la mort spirituelle c'est quoi? C'est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Quand je commets un péché mortel, c'est analogiquement exactement la même chose que de mourir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je commets un péché mortel? Souvent, on entend trop souvent ça dans le monde moderne. Les catholiques qui parfois connaissent pas très bien ces choses-là, ils nous disent: Monsieur l'abbé, je suis en état de péché mortel, j'irai me confesser demain. Attendez, il y a des conditions. Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ soit touché de compassion. Il faut qu'il s'approche, il faut qu'il me touche. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je pourrai regretter mon péché. Il y a beaucoup de confusion parce que les gens pensent qu'ils peuvent regretter leur péché. Péché grave, c'est voilà pour moi aussi, par la propre force. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous le catéchisme traditionnel du Concile de Trente. Quand le catéchisme parle des conditions pour pouvoir se confesser, des mots de la matière du sacrement, la première condition, c'est la contrition. Et il faut une douleur, dit le catéchisme, qui soit interne, souveraine, universelle et surnaturelle. Surnaturel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une douleur surnaturelle? Ça veut dire que la douleur doit venir de Dieu. La douleur est un fruit d'une grâce spéciale que Dieu donne à celui qui est dans le péché grave. Et si Dieu ne se fait pas toucher, n'est pas touché de compassion, ne s'approche pas de cette âme, pour donner à cette âme qui est dans le péché mortel une grâce particulière pour se sortir du péché mortel et désirer se confesser surnaturellement, désirer aller accuser ses péchés et recevoir l'absolution, rien ne peut être fait. Nous ne sommes pas capables par nos propres forces d'obtenir la grâce de la contrition, même imparfaite, de nos péchés. Il faut une grâce particulière du bon Dieu. C'est ce qu'on appelle une grâce actuelle. C'est qu'il y a deux grandes grâces. Une grâce habituelle, la grâce sanctifiante. L'état de grâce. Mais il faut aussi des grâces actuelles pour pouvoir aller se confesser. Est-ce qu'on est capable, par la force, par notre propre force, de regretter notre péché de façon surnaturelle? Non. Je donne un exemple, parce que c'est très fréquent, hélas. Surtout avec les gens qui ne sont pas, parfois, des catholiques très fidèles. Imaginez quelqu'un, je donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez un homme qui s'est laissé aller un soir et qui a bu plus que de raison. Il s'est complètement enivré. Il a un problème de boisson, par exemple. Et puis, il rentre à la maison, et puis comme il est ivre, il injurie sa femme, il injurie ses enfants, il casse tout à la maison, il est violent. Et puis, en plus de ça, il est malade parce qu'il a trop bu. Et puis, le lendemain matin, il se dit, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. Je me suis ridiculisé. À la maison, j'ai perdu l'autorité sur mes enfants. Ma femme, mon épouse me fait la tête parce que j'ai tout cassé dans la maison. Je me sens vraiment mal. Je vais aller me confesser. Qu'est-ce que ça vaut comme contrition, ça? Rien. Zéro. Pourquoi? C'est une contrition naturelle. Il faut une contrition surnaturelle. Ça veut dire une contrition surnaturelle. Contrition surnaturelle, ça veut dire j'ai offensé Dieu. Minimum. Sa condition parfaite, l'attrition. J'ai offensé Dieu, et si je meurs dans cet état, c'est l'enfer. Alors, je ne veux pas tomber en enfer, donc parce que je ne veux pas tomber en enfer, je vais me confesser pour accuser mes péchés et obtenir le pardon de mes péchés. Mais si on reste au niveau de la contrition naturelle, l'absolution vaut rien. Les contritions naturelles, c'est très fréquent. C'est facile d'avoir une contrition naturelle. Contrition naturelle, justement, nous fait oublier qu'en péchant, on a offensé Dieu, on a offensé la Sainte Vierge, on a offensé notre ange gardien. Donc il faut demander cette grâce. Et cette grâce, Dieu n'est pas obligé de la demander. Dieu n'est pas un distributeur automatique des grâces. On n'appuie pas sur un bouton et on obtient la grâce. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Dieu est touché de compassion. Ah, mais il est touché de compassion avec tout le monde. Pas du tout. Regardez les deux larrons au pied de la croix. Dieu est touché de compassion par Dismas, Saint Dismas, le bon larron. Est-ce qu'il va être touché de compassion pour l'autre? Non, parce que Dieu est libre. Certes, il refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Mais comme explique très bien saint Thomas d'Aquin, pour demander la grâce du bon Dieu avec humilité, il faut déjà une grâce. Tout vient de Dieu. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à comprendre ces choses-là, tout simplement parce que, à cause des idées modernes, on tombe dans l'humanisme, dans le rationalisme, dans le naturalisme, et on pense qu'on est capable d'obtenir cette grâce à la force du poignet. Ce n'est pas possible. La grâce est un don de Dieu. Nous prêtres, nous le voyons tout le temps. Il y a des gens qui se convertissent et des gens qui sont dans les mêmes conditions et qui, eux, ne se convertissent pas. Certes, le bon Dieu est plein de miséricorde. Et c'est là où il y a un des plus grands mystères de la foi catholique, la toute-puissance de Dieu qui respecte notre libre arbitre. Alors parfois, la toute-puissance de Dieu va prendre le pas sur le libre arbitre et le libre arbitre va logiquement, avec la grâce du bon Dieu, se soumettre à la volonté du bon Dieu et ça va obtenir une contrition au moins parfaite. Ce qu'on vise évidemment, c'est la contrition parfaite, regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Alors on le voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui et les pères expliquent très bien tout cela. Et ils disent donc que notre Seigneur Jésus-Christ, il est touché de compassion, il s'approche, c'est la grâce actuelle. Il s'approche, il arrête, il donne l'ordre pour que le cortège s'arrête. Et les pères de l'Église expliquent cet arrêt des porteurs qui s'arrêtent, qui obéissent à notre Seigneur Jésus-Christ, représente l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, parce qu'il faut la foi, on ne peut pas aller se confesser sans la foi, c'est impossible. On ne peut pas se confesser sans avoir la foi catholique. Et notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, un détail qui semble anodin, il touche le cercueil. Il touche le cercueil, et le cercueil, disent les pères, est en bois. Le cercueil est en bois, et ce bois va vivifier le mort et va le ressusciter. Pourquoi? Parce que ce bois qui vivifie le mort représente un autre bois, le bois de la croix. Et c'est par le bois de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous guérit d'entre les morts. On a besoin de la croix, on a besoin de la messe. N'oublions pas que la source de tous les sacrements, sacrement de la Sainte Eucharistie, sacrement de pénitence, c'est la croix. Et la croix, on la trouve où? La croix, c'est la Sainte Messe. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, donne l'ordre, jeune homme, je vous l'ordonne, levez-vous. Et l'homme se lève et parle. Et les pères de l'Église font remarquer que cet homme qui parle, c'est celui qui rattrape ses péchés. Pour pouvoir obtenir vraiment la résurrection totale de son âme, il faut regretter ses péchés. Il faut changer ce qu'il faut changer dans sa vie de tous les jours. Si je conserve dans ma vie de tous les jours des occasions prochaines volontaires de péchés graves, je ne peux pas être pardonné. À ce moment-là, l'homme est vraiment complètement ressuscité, se lève et, détail très important, Jésus le rend à sa mère. Jésus le rend à sa mère. De quelle mère il parle là? Ce n'est pas simplement sa mère physique. Jésus rend ce jeune homme à sa mère qui est l'Église. Lorsque je commets une faute grave, je quitte l'âme de l'Église. Je reste dans le corps de l'Église. Le corps de l'Église, c'est quoi? Le corps de l'Église catholique, c'est l'association de tous ceux qui sont baptisés. Ça met sur nous un caractère qui ne peut pas être enlevé. Donc on reste toujours dans le corps de l'Église. Par contre, on peut hélas quitter L'âme de l'Église. L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Donc si je commets un péché mortel, je suis mort à la grâce, je quitte l'âme de l'Église. Et par la confession, Dieu me rend à l'âme de l'Église, il me rend à l'esprit même qui fait l'Église catholique. Puisque l'absolution, je retrouve l'état de grâce, je retrouve la grâce sanctifiante, je retrouve l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, j'appartiens de nouveau à l'âme de l'Église. Alors, pour avertissement, il y a l'épître d'aujourd'hui. Galates chapitre 5 et 6. C'est la suite de l'épître de dimanche dernier. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par Saint Paul un avertissement qu'il ne faut pas oublier. De Dieu, on ne se moque pas. On ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Comment peut-on se moquer du bon Dieu? On se moque du bon Dieu, par exemple, en allant se confesser avec une contrition purement naturelle de ses péchés. Là, on se moque de Dieu. On peut se moquer du bon Dieu en allant se confesser, en cachant volontairement un péché grave. On se moque de Dieu. On se moque de Dieu en allant se confesser, mais en gardant une occasion prochaine volontaire de péché grave. De Dieu, on ne se moque pas. Attention, Dieu est plein de miséricorde. Mais Dieu demande qu'à pratiquer sa miséricorde à condition que notre libre arbitre collabore à la grâce actuelle de Dieu. Donc de Dieu, Dieu ne se moque pas. Deuxième avertissement de Saint Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si je sème dans la chair, je récolterai la corruption. Mais si je sème dans l'esprit, je récolterai la vie éternelle. Le parallèle est clair. La corruption, de quelle corruption parle-t-il? Quand si je sème dans la chair, je récolterai la corruption, en fait, c'est la mort éternelle dont il parle. Qu'est-ce que c'est que cette chair? Rappelez-vous, c'est tout simplement l'épître de dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était là le même texte, sous une forme différente. Saint Paul, début du chapitre au chapitre 5 des Galates, l'épître Galates dit, les œuvres de la chair sont connues. Il a cette longue liste que je vous ai expliquée la dernière fois. Fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui pratiquent ce genre de choses ne posséderont pas le royaume des cieux. Et dans l'épître d'aujourd'hui, la phrase est légèrement différente, mais ça dit exactement la même chose. Celui qui sème dans la chair moissonnera la corruption. Et que signifie la deuxième partie? Celui qui moissonne dans l'esprit moissonnera la vie éternelle. Ça, c'est les fruits de l'esprit. La charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence, la chasteté. Donc, il y a un choix à faire. Soit pour, soit contre. Est-ce que je peux me promener quelque part entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit? Impossible. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il faut méditer sur cette phrase. Et n'oublions pas que, d'après Saint Paul, la première conséquence de cette présence du bon Dieu en nous, c'est quoi? La charité, bien sûr, c'est le premier des fruits du Saint-Esprit, mais immédiatement après, la paix et la joie. Est-ce qu'on peut avoir la charité avec les œuvres de la chair? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut avoir la paix et la joie avec les œuvres de la chair? Bien sûr que non. Pour avoir la paix et la joie, et une condition, être dans l'amitié du bon Dieu. Souvent, les gens nous disent, surtout les jeunes, nous disent, Monsieur l'abbé, être catholique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est compliqué, il faut dire non toute la journée. Non, mais attendez, il y a des contreparties. Quand on est catholique et qu'on vient à l'état de grâce, même si c'est pas facile tous les jours, il y a un certain nombre de conséquences. D'abord, on a dans la poche un ticket d'entrée pour le paradis. C'est quand même pas rien. Deuxièmement, on a la paix et la joie. Demandez aux gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au bout, les gens du monde. Vous croyez qu'ils sont heureux? Pensez-vous. Pensez-vous. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune il y a longtemps, j'étais dans un lycée complètement pourri. J'étais J'étais dans le premier lycée qui s'est mis en grève en 68. Vous voyez un peu le travail. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai repris contact par l'intermédiaire d'une association avec mes camarades qui étaient avec moi en seconde première terminale dans ce lycée. J'ai pris contact entre autres, j'ai retéléphoné à deux camarades de classe avec qui je m'entendais bien à l'époque. Puis on a un peu discuté au téléphone. On était une quarantaine en terminale. Et puis on a discuté. Et puis, j'ai posé la question qu'il ne fallait pas poser. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes toujours avec la même? Non. Divorcé. Je téléphone au deuxième. Vous êtes marié? Oui. Toujours avec la même? Non. Divorcé. Elle dit, mais dites donc, sur les 40 qui étaient en terminale là, il y en a combien qui sont divorcés? Réponse, tout le monde sauf vous. Sauf toi. Et j'ai dit, ma conclusion c'était, mais finalement, le seul qui est heureux dans cette histoire, c'est moi. Ils ont été obligés de reconnaître que c'était vrai. Donc on présente toujours le catholicisme comme une religion négative. On oublie que le catholicisme nous donne une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'abordent dans la rue, qui sont peut-être ni catholiques, rien du tout, qui voient la soutane, qui sont attirés par la soutane. La soutane attire de façon comme un aimant. Et quand on discute avec eux, on voit bien, ils sont tous malheureux comme des pierres. Ils sont tous malheureux comme des pierres parce que il leur manque l'essentiel. Ils ont plein d'argent, ils n'en ont jamais assez. Ils ont épousé la plus belle fille du coin, mais ils rencontrent une autre fille qui est encore un peu plus belle que leur épouse, alors hop, ils changent pour aller prendre la suivante. Et tout comme ça. Alors, il y a quand même une condition, attention, qu'il ne faut pas oublier. Pour pouvoir jouir de cette paix, de cette joie, de ces fruits du Saint-Esprit dans nos bals symboles. Pas oublier l'avertissement de Saint Paul. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Celui qui est debout, c'est la phrase exacte. Si quelqu'un imagine être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Quelle est la première condition pour accepter notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme? L'humilité. Quel est le péché qui chasse notre Seigneur Jésus-Christ de l'âme? L'orgueil. Voilà pourquoi le monde moderne est tellement malheureux. Le monde moderne, c'est quoi? C'est le règne social du démon. Et le règne social du démon part d'une chose, l'orgueil. Donc quand Dieu veut convertir une âme, première chose qu'il fait, c'est mettre dans cette âme l'humilité. Et dans la mesure où l'âme accepte la vertu d'humilité, à ce moment-là, le bon Dieu peut faire son travail. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu de nous donner cette humilité. De nous rappeler que si nous avons la foi, c'est une grâce. Pensez à tous les gens autour de vous qui n'ont jamais reçu cette grâce que vous avez reçue. Tous les paysans qui habitent autour, là. Il y a une messe ici. Quoi qu'ils se précipitent à la porte de la chapelle? Non. Ils ne s'occupent pas de ça. Donc il faut l'humilité. Pour savoir que c'est une grâce du bon Dieu si j'ai la foi. Vous pourriez être moderniste, moi aussi. Je pourrais être en short et en t-shirt en train de jouer de la guitare dans les pubs d'Albi pour convertir tout le monde. Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que je rencontre Monseigneur Lefebvre, que je sois ordonné dans la tradition? Grâce du bon Dieu. C'est moi qui le mérite? Bien sûr que non. Et si un autre que moi avait reçu la même grâce que j'ai reçue, il serait peut-être 10 fois plus saint que moi. C'est pareil pour vous. Si vous avez conservé la foi, c'est une grâce du bon Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est une grâce du bon Dieu. Si vous avez pu vous confesser, c'est une grâce du bon Dieu. Si vous pouvez communier, c'est une grâce du bon Dieu. Il faut remercier le bon Dieu. Imaginez un enfant à qui la maman fait un beau cadeau pour son anniversaire. L'enfant ouvre le paquet sans même remercier. Qu'est-ce qui se passe? La maman reprend le cadeau. Si j'ai reçu la grâce de la foi, si j'ai reçu la grâce de la charité, si j'ai reçu toutes ces grâces extraordinaires que nous recevons tous les jours, et qu'on ne dit même pas merci au bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu? Il va reprendre ses grâces. en disant tu en es indigne. Donc passons, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie. N'oubliez pas que toutes les grâces passent par elle, puisqu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Il n'y a pas une grâce qu'on nous puissions recevoir qui ne passe par la très sainte Vierge Marie. Mettez, gardez la très sainte Vierge Marie dans votre cœur. Gardons la très sainte Vierge Marie en nous. Si vous gardez votre chapelet tous les jours, si vous avez cette vénération pour Notre-Dame, si vous avez cette vénération pour la très sainte Vierge Marie, le bon Dieu ne sépare pas ce qu'il a uni. Là où il y a la très sainte Vierge Marie, il y a notre Seigneur. Là où il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la très sainte Vierge Marie. Donc supplions la très sainte Vierge Marie de nous donner cette force dont nous avons besoin pour que nous soyons capables de ne plus nous moquer du bon Dieu, d'accepter la grâce du bon Dieu et vivre en état de grâce et transmettre cet état de grâce à ceux dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.